Vous écoutez, on lit pour vous.
Apprendre à détecter la détresse autour de soi. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 26 juin 2024 dans Le Devoir. Démunis devant la détresse grandissante des gens qu'il côtoie au quotidien, de plus en plus de gens de différents milieux professionnels, communautaires ou simples citoyens vont chercher une formation pour apprendre à détecter certains signaux, aborder ceux qui semblent vivre une situation difficile et leur offrir de l'aide en les dirigeant vers les bonnes ressources. Ces éclaireurs, qui reçoivent une formation de base en santé mentale, sont autant de maillons d'un réseau d'entraide et de bienveillance qui s'organise au Québec. Ces jours de canicule. À la bibliothèque de Rosemont, on s'attend à une plus grande affluence. Parmi ceux qui viendront s'y rafraîchir, il y a des familles, des aînés, mais également des gens en situation d'itinérance. Plusieurs d'entre eux sont des réguliers. Ils viennent se réchauffer l'hiver, utilisent les salles de bain pour se laver et profitent de la quiétude des lieux pour se poser un moment dans un endroit sécuritaire, loin du chaos de la rue. Pour d'autres usagers, de plus en plus nombreux, eux aussi, la bibliothèque est devenue l'ultime refuge contre la solitude, un lieu de socialisation qui leur permet de garder contact avec la société. Avant la pandémie, on avait déjà une clientèle qui était diversifiée, mais depuis, on a remarqué de façon plus marquée encore l'importance des bibliothèques pour toutes les catégories de la population, résume Émilie Paquin, chef de section pour les bibliothèques de Rosemont et de la Petite Patrie. La bibliothèque s'est donnée comme mandat d'être un lieu accueillant pour tous, y compris les personnes les plus vulnérables et marginalisées, mais cela s'accompagne de son lot de situations et de questions auxquelles les bibliothécaires n'étaient pas nécessairement habitués. Des gens qui transportent toutes leurs possessions dans des sacs ou qui restent pendant de longues périodes dans les toilettes, ce qui fait craindre le pire au personnel. Des gens intoxiqués ou qui se désorganisent, d'autres qui ont besoin de parler ou qui évoquent des idées suicidaires. Besoin de s'outiller. Oui, on est des fonctionnaires, mais ça reste que les gens qui travaillent en bibliothèque, de façon générale, ce qu'ils aiment, c'est offrir du bonheur, affirme avec un grand sourire Madame Paquin. Alors, c'est sûr que si quelqu'un ne va pas bien, ils ne vont pas rester les bras croisés. Ils vont au moins vouloir offrir des ressources. Sauf qu'ils ne sont ni travailleurs sociaux ni psychologues et se sentaient démunis face à toute cette détresse. Les employés ont exprimé un besoin d'être mieux outillés pour répondre et interagir avec les personnes en situation d'itinérance ou des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, explique la bibliothécaire. Elle a donc fait appel au service de l'équipe relais du programme des éclaireurs au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, qui offre des ateliers et de la formation en santé mentale. Ces ateliers, qui ont été donnés à toute l'équipe des bibliothèques de Rosemont et de la Petite Patrie, ont été bénéfiques, affirme Émilie Paquin. Cela a permis de poser des questions, sans tabou ni censure, de défaire quelques préjugés, de valider certaines interventions et d'apprendre à reconnaître ses limites. Non seulement les employés se sentent plus à l'aise d'interagir avec la clientèle, mais l'équipe elle-même a pu en profiter. Personnellement, je trouve que ça a changé bien des choses, confie-t-elle. Déconstruire les préjugés. Le projet des éclaireurs a vu le jour en 2020 pour faire face à la détresse psychologique de la population pendant la pandémie. Au départ, c'était pour amener la population à s'adapter et à avoir une résilience face à la pandémie parce qu'il a été prouvé dans le passé qu'avoir un réseau d'entraide et de bienveillance peut vraiment aider à passer à travers des catastrophes ou des pandémies, explique Jordana Larochelle, intervenante pour l'équipe relais des éclaireurs au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Post-pandémie, les besoins en santé mentale sont toujours criants et les listes d'attente pour obtenir des services toujours aussi longues. Le mandat a donc été élargi pour faire de la prévention et outiller les gens de la communauté pour faire face à ces questions dans leurs milieux respectifs. Le programme est offert dans l'ensemble des CIS et CIUS du Québec, mais chacun est libre de déterminer comme il souhaite le déployer. Ainsi, au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, on a choisi de créer des ateliers ouverts à tous sur différents thèmes liés à la santé mentale. Ceux qui le désirent peuvent ensuite suivre une formation supplémentaire de 2 heures pour devenir éclaireur et faire partie du grand réseau d'entraide, qui compte à ce jour quelques 500 bénévoles dans l'Est de Montréal et environ 9000 pour l'ensemble du Québec. On explore plusieurs préjugés que les gens peuvent avoir en santé mentale, résume Mélina Liberge, agente de relations humaines à l'équipe Relais, qui a participé à l'élaboration de la formation. C'est quoi la détresse psychologique? Comment on peut aborder quelqu'un qui a une détresse? Et on leur donne des listes de ressources parce que les gens sont souvent démunis face à ça. La détresse, ça peut être difficile à recevoir. Donc, le but, c'est de les outiller. S'ils voient quelqu'un qui ne va pas bien, ils peuvent à tout le moins leur donner un numéro de téléphone. Demande grandissante. La petite équipe constate une demande grandissante pour les ateliers dans les bibliothèques, mais également dans divers milieux, que ce soit des résidences pour personnes âgées, des centres de femmes, des maisons de la famille, des HLM et différents milieux professionnels du secteur du divertissement, du service à la clientèle ou du fonctionnariat. Lorsqu'ils se sentent dépassés, les éclaireurs peuvent communiquer avec l'équipe relais pour bénéficier de conseils. L'équipe fait également du porte-à-porte avec les services policiers pour visiter des aînés isolés et participe à de nombreux événements communautaires pour faire du repérage, se faire connaître et offrir un service de référencement individualisé. On s'assure de raccrocher les gens au service, on va les rassurer sur le cheminement de leurs demandes et ensuite, on passe le relais. C'est pour ça qu'on s'appelle l'équipe relais. C'est quétaine de même, mais c'est ça, conclut Mélina Liberge dans un grand éclat de rire. C'était « Apprendre à détecter la détresse autour de soi », un texte de Jessica Nadeau, paru le 26 juin 2024 dans Le Devoir.
Ce que la science doit au pissenlit. Un texte de Raphaël Derome, paru le 1er mai 2024 dans le magazine Québec Science. La célèbre plante à fleurs jaunes est au cœur de nombreux travaux scientifiques. Recensions en 3 actes. 1. Il témoigne de la richesse du français. Comme bien des plantes communes, le pissenlit de nos jardins, Taraxacum officinale, a porté plusieurs noms selon les régions et les époques, comme rapporté dans l'Atlas linguistique de la France. Cet ouvrage, paru il y a 125 ans, présente des cartes indiquant les mots usuels de l'époque dans chaque localité. La carte consacrée au mot « pissenlit » est particulièrement riche, avec au moins 25 désignations différentes. D'abord, les variantes de « pisoli » qui signifie « pissouli », clin d'œil aux vertus diurétiques de la plante. Puis, dents de lion, dents de chien, coustellino, petit couteau, ou cramaillot, crémaillère, en référence à ses feuilles dentelées. La texture douce, soyeuse et légère des aigrettes a donné bourre de coucou, duvet ou minou. Pour nommer un objet nouveau, l'être humain sélectionne un trait saillant, procède par analogie, fait des comparaisons. Il récupère souvent un mot existant, explique Carole Chauvin, chercheuse au Gypsalab de l'Université Grenoble-Alpes. Ainsi, une plante sera nommée selon sa forme, sa couleur, son goût, son odeur, sa toxicité, sa période de pousse ou ses usages. C'est ce que les linguistes appellent la motivation sémantique. Puis le nom créé passe dans l'usage seulement s'il est accepté par la communauté, explique la spécialiste en sciences du langage. L'étude des noms des plantes nous fait découvrir les rapports entre elles et les êtres humains dans l'espace et dans le temps. 2. On s'en inspire. Chaque graine de pissenlit est surmontée d'une petite touffe de soie appelée papus. comme un parachute, ce dernier ralentit la chute des graines, maximisant ainsi leurs chances d'être dispersées à tout vent, aux grandes dames des amateurs de pelouse parfaite. Cela dit, la forme particulière du Papus le rend quatre fois plus efficace qu'un parachute, révélait une équipe écossaise dans Nature en 2018. Grâce à une petite soufflerie verticale, les scientifiques ont pu photographier et décrire pour la première fois le tourbillon d'air, un vortex toroïdal, soit en forme de beigne généré au-dessus du Papus. Ce mécanisme pourrait inspirer les concepteurs de drones miniatures peu énergivores. Plusieurs membres de la même équipe ont aussi montré en 2022 que la forme du Papus s'adapte aux conditions atmosphériques. En présence d'humidité, les soies se referment et les graines se détachent plus difficilement de la plante. Le Papus s'ouvre par temps sec, quand les vents sont généralement plus forts. Ainsi, la plante sème moins passivement qu'à première vue. Selon l'équipe, on pourrait imiter cette particularité anatomique pour créer des robots actionnés par l'humidité et des matériaux qui y réagissent. La boule blanche de graines de pissenlit a aussi la particularité d'emprisonner une bonne quantité d'air quand on l'immerge dans l'eau. Selon les calculs d'une équipe de l'Université de Trente, en Italie, si on inventait une combinaison de plongée capable de capturer l'air de façon similaire, celle-ci pourrait en fournir assez à son propriétaire pour qu'il respire 10 minutes. 3. On le cultive. Quand on le coupe, le pissenlit laisse couler un latex blanc, collant et mauvais au goût. La plante rebute ainsi les insectes qui tenteraient de la grignoter. Mais ce latex constitue aussi une source prometteuse de caoutchouc naturel. À l'heure actuelle, ce matériau est importé d'Asie. Or, les monocultures d'EVA sont menacées par un champignon pathogène. En revanche, les racines du pissenlit russe sont particulièrement riches en latex. La plante était d'ailleurs cultivée à cet effet en Russie dans la première moitié du XXe siècle. Toutefois, selon plusieurs recherches menées chez nous il y a une dizaine d'années, il faudrait rendre le pissenlit russe plus performant pour que sa culture à grande échelle soit rentable. Dans les serres de l'Université d'État de l'Ohio, la chercheuse Katrina Cornish y travaille depuis plus de 20 ans. Elle teste aussi des méthodes d'extraction du latex dans une usine pilote. Des recherches financées notamment par l'industrie du pneu. Toutefois, le secteur médical pourrait être le premier intéressé par le caoutchouc de pissenlit. Contrairement à celui de l'EVA, son latex est hypoallergène. Les agriculteurs du futur sèmeront-ils délibérément des pissenlits dans leurs champs? C'était « Ce que la science doit au pissenlit », un texte de Raphaël de Rome, paru le 1er mai 2024 dans le magazine Québec Science.
La longue route de Pierre Flynn. Un texte de Michel Lemieux, paru le 9 avril 2024 dans Virage. À la veille de ses 70 ans et dans le cadre de ses 50 ans de carrière, Pierre Flynn sillonne le Québec pour nous offrir son spectacle « Sur ma route ». L'auteur-compositeur-interprète, dont la flamme pour son métier reste intacte, nous convie à une rencontre en tête-à-tête et en cœur-à-cœur. « J'ai toujours voulu faire ça de ma vie », lance Pierre Flynn en parlant de sa riche carrière amorcée au début des années 70. Depuis la fondation d'Octobre, groupe mythique qu'il a créé avec des camarades d'enfance, il s'est écoulé 5 décennies. Tenir aussi longtemps dans un domaine aussi précaire, ce n'est pas rien. Seul sur scène, l'artiste nous offre justement un spectacle qui revisite ce parcours entamé il y a un demi-siècle. Une fois de temps en temps, Un diffuseur m'invitait à faire un show solo, raconte-t-il au sujet de la genèse de ce projet. Et à l'occasion, je me laissais tenter. Lors d'un spectacle à Petite Vallée, je me suis sentie visitée par un état de grâce. À la suite de cela, un ami lui a suggéré de faire ce show pour vrai, c'est-à-dire de manière officielle. On s'est servi du prétexte du cinquantenaire comme moteur premier. Un chiffre ne veut rien dire, mais ça mérite quand même d'être souligné. Je pense que la carrière d'un auteur-compositeur ou d'une autrice-compositrice qui s'inscrit dans la durée, c'est un peu la chronique de sa vie, poursuit-il. Quand je pense à des idoles, que ce soit Dylan, Cohen, Ferré ou Brel, c'est touchant de les suivre sur 10, 20 ou 50 ans, de les voir avancer dans la vie et traverser certaines étapes. Je ne me trouve pas plus intéressant que le voisin, mais je trouve passionnant de suivre le récit d'une vie à travers des chansons. Si Pierre Flynn s'offre en ce moment une relecture de ses propres chapitres, il demeure clair que son récit n'est pas terminé. J'ai envie de poursuivre ce témoignage. Non seulement on atteint 50 ans de carrière une seule fois dans la vie, mais normalement, on passe sur la terre une seule fois. Nous sommes tous des mortels. Il y a quelque chose d'émouvant dans la condition humaine. On est, on vit, on va mourir. Et durant le temps de ce passage sur terre, nous avons des choses à raconter. Un métier thérapeutique. Celui qui n'a jamais eu de plan B semble avoir avancé au rythme de la vie, porté par son instinct. Je suis un gars très désordonné. Je ne réfléchis pas à mon avenir, confie-t-il. Il n'y a pas de prise de décision. J'éteins les feux et j'essaie d'avancer. Heureusement, je suis tombé sur quelque chose qui me convenait et me permettait d'entrer en contact avec les autres. Comme bien des artistes, j'étais un enfant timide, un peu renfermé. Le rock'n'roll m'a permis d'entrer dans la vie et d'entrer en contact avec les gens. Je suis encore solitaire, mais je ressens un grand plaisir à pouvoir croiser des gens en faisant des spectacles. Le métier aurait-il été thérapeutique pour l'homme et l'artiste? Je pense que oui, convient-il. Ce métier a été bon pour moi. En réfléchissant à son parcours, Pierre Flynn se dit rempli de gratitude. Je suis content d'être encore dans un métier qui nous amène autant de joie que de tourments. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Je dois avouer que j'ai un tempérament un peu anxieux. Avec des petits problèmes, je peux faire des montagnes. Mon hypersensibilité fait en sorte que je suis toujours un peu dramatique. En même temps, je suis vraiment content de pouvoir faire encore mon métier. Si je n'avais pas ces tourments, je m'en inventerais d'autres. Aussi bien composer avec ceux qui font partie de ce que j'aime profondément. Être dans la vie. L'homme, qui sera bientôt septuagénaire, ne s'embarrasse pas des chiffres. « Je n'ai même pas commencé à assimiler la notion des 70 ans, soutient-il. Mais je trouve que c'est un chiffre intimidant. Avant de déclarer que « 70 is the new 40 », je vais me garder une petite gêne, comme on dit. Cela étant dit, on vit à une époque où les gens sont dans la vie et pendant longtemps. J'ai des amis qui ont 60 ans de carrière et qui sont en forme. Je pense à Robert Charlebois, entre autres. On peut aussi penser à Gilles Vigneault, qui est encore actif. Pour moi, ce sont des modèles inspirants qui me rappellent qu'il faut essayer de se garder en forme pour profiter de la vie. Il faut entretenir la machine un peu. Pour y parvenir, Pierre Flynn s'accorde du temps, mais pas suffisamment, selon ses dires. J'aimerais en faire plus, admet-il. Je faisais du yoga, mais j'ai arrêté avec la pandémie. Au-delà de l'exercice, la forme, c'est aussi de pouvoir poursuivre son métier à 70 ans et prendre la route pour offrir son spectacle, sa garde jeune. Et en général, nous sommes entourés par des gens plus jeunes, fait-il remarquer. On finit par oublier notre âge, et c'est agréable de pouvoir le faire. Pouvoir fréquenter toutes sortes de mondes et de générations, c'est l'une des joies du métier. Qu'est-ce qui motive l'homme à poursuivre? Je ne sais pas. Je constate que c'est une drogue dure. Dans les métiers de scène ou de communication, la plupart des gens ne veulent pas arrêter. Arrêter, c'est difficile. C'est un deuil énorme. Mais pour poursuivre, il faut quand même avoir quelque chose à dire sur le plan artistique. J'ai l'impression que j'ai tout essayé, expérimenté, et que je commence à peine à comprendre comment ça marche. Alors, j'ai le goût de continuer. Et si je sentais que le réservoir est épuisé, je ne pense pas que je continuerais à faire des disques. C'était « La longue route de Pierre Flynn », un texte de Michel Lemieux, paru le 9 avril 2024 dans « Virage ».
Fufu sauce graine, analyse d'un phénomène. Un texte de Daphné B. paru le 17 avril 2024 dans La Presse. Quand Christine Oumpati a ouvert son resto à Montréal-Nord en juin 2023, la Togolaise d'origine était sûrement loin de se douter que son établissement allait se retrouver à l'épicentre d'un phénomène viral « Made in Québec ». Moins d'un an après l'ouverture de Belle Afrique, voilà qu'un des plats figurant sur le menu du restaurant fait saliver la province entière, le fufu sauce graine. Si la popularité québécoise du mets africain a d'abord explosé sur TikTok, le fufu jouit désormais d'un incroyable rayonnement médiatique. De nombreux clients n'hésitent pas à parcourir des kilomètres pour goûter au plat légendaire. Certains partent de Sept-Îles, de Gatineau ou encore du Lac-Saint-Jean. L'engouement est tel que le premier ministre Legault a lui aussi dégusté le fameux plat à la sauce graine dans une vidéo publiée au début d'avril sur le compte TikTok du créateur Anto Tran. L'entreprise québécoise Vulgaire a même lancé une bougie parfumée « J'aime la sauce graine » en collaboration avec le restaurant de Montréal-Nord. Mais comment expliquer un tel succès? Analyse d'un phénomène numérique typiquement québécois. Une nouvelle institution culinaire. Le soir où je me suis rendu à Belle Afrique avec mon chum, j'ai eu l'impression de m'aventurer dans un schwartz nouveau genre, un peu comme si Belle Afrique était en voie de devenir un des piliers gastronomiques et culturels de Montréal, à l'image de la charcuterie hébraïque bien connue pour ses sandwichs à la viande fumée. Ça m'a d'ailleurs ému de penser que je partageais un patrimoine numérique commun avec la foule bigarrée qui s'entassait dans le resto exigu et que la culture web québécoise avait réussi à tous nous réunir sous un même toit. Ce jour-là, mon copain et moi avons eu la chance de mettre la main sur les deux dernières portions de fufu sauce graine. On a mangé ce plat que les Ivoiriens appellent aussi « foutou » en trempant la pâte élastique du fufu, faite à partir de farine ou de tubercules, dans une sauce savoureuse à base de jus de noix de palme. Un régal. Populaire, mais pas grâce à Legault. La Belle Afrique ne doit pas son succès à François Legault. Pour comprendre l'engouement des Québécois pour le fufu sauce graine, il faut se pencher sur les rouages de la culture participative numérique. On doit aussi rendre à César ce qui est à César. C'est d'abord Christine Oumpati qui a propulsé la tendance en enregistrant et en publiant sur TikTok de courtes entrevues dans lesquelles elle demande à ses clients de livrer leur appréciation spontanée des plats qu'ils mangent dans son resto. Si la viralité n'est pas quelque chose que l'on peut prévoir, la chercheuse en médias numériques Jean Burgess écrit que la plupart des vidéos virales contiennent en leur sein un élément d'étrangeté, voire une forme d'accroche textuelle qui retient l'attention. Dans le cas du fufu sauce graine, c'est le double sens du terme « graine » qui remplit ce rôle. En québécois, on sait que la graine renvoie non seulement à l'organe de reproduction des plantes à fleurs, mais aussi au pénis. Et au Québec, une graine suffit à stimuler la créativité populaire et à catalyser un jeu d'imitation prolifique. En allant manger à Belle-Afrique, on reproduit ainsi un comportement viral, mais on le modifie aussi subtilement en lui ajoutant notre propre sauce ou touche personnelle. Comme les gènes, les mêmes Internet subissent aussi des mutations. Un humour de carnaval. « C'est la meilleure graine que j'ai jamais mangée », lance par exemple un jeune homme devant la caméra de Oung Pati, tandis que dans une autre vidéo, des gars exhibent un sourire barbouillé de sauce. Ailleurs, c'est le nez des goûteurs qui est maculé, ou encore leurs vêtements. Si la blague salace finit par se transformer en réelle découverte culinaire, l'humour carnavalesque qui participe au phénomène numérique témoigne d'une culture web typiquement québécoise. Le carnaval, selon le théoricien Mikhaïl Bakhtin, est une fête populaire qui renverse temporairement l'ordre des choses. Le comique carnavalesque s'oppose donc au pouvoir, à l'autorité, au sérieux. Il détrône les rois, couronne les mendiants et investit le corps, la bouche, l'anus, le sexe, par exemple. Ce qui est considéré comme abject devient révéré. Je pense qu'au Québec, l'humour carnavalesque a eu une résonance particulière, considérant l'omniprésence du discours de l'Église qui privilégiait l'esprit plutôt que le corps, me confie Robert Aird, historien de l'humour au Québec. Or, il me semble que la logique carnavalesque a encore le vent dans les voiles, surtout sur le web. Le renversement carnavalesque s'inscrit d'ailleurs à même le joual québécois, qui s'oppose à l'autorité de la langue française normée, mais aussi à la suprématie de l'anglais, la lingua franca de l'Internet. L'humour numérique québécois repose donc en partie sur notre langue carnavalesque, sur les pouvoirs qu'elle renverse ou ceux qu'elle reconduit, le temps d'eux-mêmes. C'était « Fufu sauce graine ». Analyse d'un phénomène. Un texte de Daphné B. paru le 17 avril 2024 dans La Presse.